Alors ce matin, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est un mélange entre quelque chose que j'avais à cœur depuis un petit moment, et j'ai aussi incorporé des éléments que j'ai entendus hier, parce qu'il y a des choses qui allaient bien avec, et puis je trouvais que c'était aussi riche de vous partager un petit peu ça. Alors, donc je vais commencer avec une histoire. J'ai pas forcément le don de ma maman ou de Hélène de raconter les histoires, mais je sais les lire. Donc ça va, je sais faire. Donc, c'est peut-être Yannick Kikoten, ça s'appelle Sagesse et Malice de Nashreddin, donc c'est pas un bouquin chrétien, hein, mais il y a des petits contes dedans qui sont en général courts, qui sont parfois pleins d'humour, parfois pleins de bon sens, et entre autres celle-ci, je la trouvais pas mal, parce que vous allez voir de vous-même, elle est assez parlante. Donc, essayez de vous concentrer, je sais que parfois quand on écoute quelqu'un qui lit, on décroche, mais accrochez-vous à l'histoire. Alors. Le fils de Nashreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. « Les gens vont se moquer de moi », disait-il, sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens, parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers, mais le fils ne voulait rien entendre. Nashreddin dit alors à son fils, « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nashreddin Hodjas s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nashreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nashreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nashreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nashreddin marcha à ses côtés. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nashreddin et de son fils. « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nashreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nashreddin et son fils sortirent de la maison à pied, tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nashreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nashreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nashreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nashreddin et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nashreddin Hodjas dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » L'histoire est assez sympathique. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, mais alors que faire ? Nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Du coup, c'est quoi notre référence ? Qu'est-ce qui va décider notre ligne de conduite ? Si on reste sur l'histoire, est-ce que c'est parce qu'on va respecter les aînés ? Est-ce que c'est parce qu'on veut laisser la place aux jeunes ? Est-ce qu'on veut respecter les animaux ? Quelle va être notre ligne de conduite ? Et du coup, je me suis dit, nous, en tant que chrétiens, facile, c'est la parole de Dieu. Hier, on le disait beaucoup, on revenait toujours à ça, on est christocentré, Christ au centre. Christ, c'est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu. Et du coup, on va refaire une lecture ensemble. Matthieu 7. Matthieu 7:24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est que c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Si je fais un petit parallèle avec cette histoire, j'ai envie de dire que la pluie, le torrent, les vents, ça peut être le discours des gens, le regard des gens, les remarques, les critiques, les circonstances de la vie. Et ça, on en a tous dans nos vies. Dès notre plus jeune âge, dès qu'on va à l'école, dans le monde du travail, partout, dans la famille, dans toutes nos relations, parce que c'est la vie. Et il y aura toujours ça. Donc on ne peut pas éviter, on ne peut pas être à l'abri du vent complètement, de la pluie, du torrent, etc. Il y en aura toujours. Mais maintenant, voilà, c'est comment est-ce qu'on construit notre vie. Et ici, c'est vrai que c'est important de... Alors souvent, c'est vrai qu'on dit « Christ, c'est le roc ». Mais ici, dans cette histoire, ce qui est dit, c'est le roc. C'est pas forcément Christ, mais enfin, ça l'est, mais voilà. C'est surtout ce qui est dit, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, si on regarde au verset, donc le verset 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique » se rassembler à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Je fais une petite précision, souvent c'est difficile, parce que quand on dit quelque chose, on peut aller à une extrême, etc. Donc ce que je ne dis pas non plus que ce que disent les gens n'a aucune importance. Je ne dis pas que ce que les gens autour de nous peuvent... Enfin, il faut complètement l'oublier et n'en faire aucun cas. Mais je pense qu'il faut être sage aussi à qui on donne l'oreille. Est-ce que c'est effectivement là, les gens sur la place du marché qu'on ne connaît pas, qui vont dire tout ce qu'ils pensent et qui ne savent rien des circonstances, etc. Ou est-ce que c'est des gens à qui vous avez donné l'autorité pour parler dans votre vie? Des gens qui vous connaissent, des gens qui vous avez confiance, des gens qui n'auront pas peur, malgré le prix, de vous dire ce qui est la vérité, qui ne vont pas vous caresser dans le sens du poil, qui ne vont pas dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Là, effectivement, ces gens-là, ils ont de l'importance. Mais encore une fois, ça reste... la parole de Dieu qui est la plus importante. Parce que même ces gens-là, plein de bonne volonté, qui ont une parole dans votre vie, peuvent aussi se tromper. On est tous humains et on peut être dans l'erreur. Du coup, Christ, la parole de Dieu, est toujours au-dessus. Mais voilà, donc je mets cette petite parenthèse pour dire, voilà, bien sûr, les autres ont aussi quelque chose à dire, mais il faut aussi le faire avec sagesse. Après, je me suis posé une question, et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué avant. Du moins, on le sait, mais on n'en prend pas conscience. Au verset 27, donc, il dit « Ces paroles que je dis ». Enfin, il le dit plus tard. Hein. « Quiconque entend ces paroles que je dis », il le dit au verset 24, au verset 27. Et je me suis dit « Mais ça fait référence à quoi, ces paroles que je dis ?» Et en fait, j'ai regardé, je dis « Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit juste avant ? Qu'est-ce qu'il dit juste avant ?» Ben, en fait, ce qu'il dit avant, ça commence à Matthieu 5. Donc, ça fait Matthieu 5, 6, 7. En gros, c'est le sermon sur la montagne, tout simplement. Mais c'est vrai que parfois on lit les chapitres, on s'arrête, chapitre 4, je m'arrête, 5, je commence un autre. C'est le problème parfois d'avoir fait du découpage. Mais du coup, c'est vrai que je n'avais pas forcément remarqué, bah, c'est tout ce qui passe avant, c'est le serment sur la montagne. Donc là, on a un bon petit programme si on veut construire notre vie sur le roc. Notre vie sur le roc, c'est mettre en pratique Matthieu 5, 6, 7. Bon courage. Et ce qui est intéressant, du coup, j'ai relu un petit peu les chapitres, on va pas les lire tous ensemble, bien que ce serait génial, parce que c'est la parole de Jésus lui-même, donc il y a rien de mieux. Mais du coup, ce qu'on y voit, si vous l'avez un peu en tête, il y en a peut-être qui l'ont lu récemment, ou qui s'en souviennent, on trouve un peu de tout pour notre vie. On trouve des conseils de vie, on trouve des règles sur la société, comment gérer l'autre, comment être avec l'autre, dans notre relation avec l'autre. On voit aussi, on a le mode d'emploi à la prière. C'est dans ces chapitres-là qui dit comment prier le Notre Père. On a des modes d'emploi dans les relations, donc avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, par rapport à notre âme aussi. Je n'ai pas si forcément écrit tous, mais le fait aussi de savoir être heureux dans les différentes circonstances. Il y a énormément de choses dans ce passage. Donc du coup, par rapport à ce que je disais au début, le fait de comment est-ce que je construis, quelle est un peu ma ligne de vie, ma ligne de conduite, ça ne va pas être ce que la société me dit, ce que les autres me disent, ça va être la parole de Dieu. Et donc là, si on prend ça, construire sa maison sur le roc, c'est mettre en pratique tout ce qui a été dit par Jésus. Mais alors là, si on prend notre esprit bien humain et aussi bien français, parce qu'on aime bien foncer, avoir un plan, projet, etc., on risque de tomber dans la religion. Ok, point numéro 1, ça c'est bon, check. Point numéro 2, bon, je vais encore un peu travailler, j'y arriverai d'ici la fin de l'année, etc. Enfin voilà, on se fait nos petits programmes. Mais là, on tombe dans la religion. On va le tomber dans tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais pas ça. C'est impossible, on peut pas le faire par nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens 3, hein, il est dit « la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Si vous essayez de mettre ça en pratique tout seul dans votre coin, avec propre force, vous allez mourir, d'une certaine manière, parce que ça va être trop dur. Mais par contre, si vous le faites avec l'esprit de Dieu, l'esprit seul qui peut vous rendre capable de réaliser ça, et ben là on a la vie, et là on construit notre maison sur le roc. Ouais, je voulais vraiment vous encourager par rapport à ça, à revenir toujours à Christ, à ce que dit Christ, pour mettre en pratique ce qu'il dit dans nos vies. J'essaie de relire un peu mes notes, dans quel ordre je les ai notées, désolée. Ce qu'on voit aussi, c'est dans notre relation à Dieu, qui on est, celui qui nous dit qui on est, c'est celui qui dit je suis celui qui suis. Donc lui, Christ, peut nous dire, peut nous confirmer dans notre identité, peut dire dans quel chemin prendre. Donc voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mais on est appelé à ce que notre vie soit christocentrée. Et alors, quand on est christocentré, si on l'est tous, eh ben c'est ça aussi qui fait qu'on est égaux. Puisque s'il y a Jésus au centre, et qu'on est tous centrés sur Christ, on est juste tous autour de lui, et on est tous égaux. Et on n'est pas plus important l'un que l'autre. Il n'y a pas cette hiérarchie qu'on aime bien mettre, il n'y a pas cette personne qui est plus importante que l'autre. Il y a Christ au centre, c'est pas moi au centre, c'est pas telle personne au centre, c'est pas le pasteur au centre, c'est pas mon patron, enfin... mais mon conjoint ou autre, c'est Christ au centre. Et après, on est tous autour, et du coup, on est tous égaux. Donc, cette importance, vraiment, de mettre Christ au centre dans notre vie, Christ au centre dans notre vie de famille, dans notre église, toujours revenir à ça, parce que c'est quelque chose, finalement, de basique, de simple. Mais là, il y a ce proverbe qui dit hein, que Dieu a fait les choses simples, mais l'homme a rendu les choses compliquées. Et on a un peu cette tendance à vouloir faire... plus compliqué parce que finalement parfois les choses simples sont pas faciles à mettre en œuvre. Donc on se remet des barrières pour se dire mais c'est compliqué, on peut pas le faire. Donc voilà, je vous encourage aussi à revenir toujours à cette base de mettre Christ au centre. Et donc pour faire donc c'est un peu un lien avec ce que je partage, mais c'est vrai que je vais aussi évoquer donc ce que j'ai pu entendre ce week-end. Et c'est deux choses qui parlent de notre identité. La petite parenthèse que je fais peut-être avant, c'est que le thème de ce séminaire, c'était le faire ensemble. Et ce qu'il expliquait quand il a commencé son introduction, c'est que l'importance dans tout ça, c'est pas le faire, mais c'est le ensemble. Parce qu'on va tout de suite se jeter sur le faire, comme je disais tout à l'heure, on a cette tendance dans l'action, on veut faire, mais on oublie trop vite le ensemble. Donc du coup, il a beaucoup développé sur ça, sur pourquoi faire et qui on est pour faire ensemble, etc. Donc il a beaucoup développé ça. Et dans tout ce qu'il a pu partager, il y a deux choses qui m'ont vraiment interpellée. Pendant la louange aussi, ça m'a confirmé que, enfin je sais pas, j'avais ça vraiment sur le cœur. Mais il y a une des choses qui est très importante, qu'on oublie, en tout cas moi je sais que c'est quelque chose que je peux travailler dans ma vie, c'est accepter l'état dans lequel vous êtes. Une des phrases qu'il a dit, c'est « la fragilité et la faiblesse ont leur place ». La fragilité et la faiblesse ont leur place dans nos vies. Ce ne sont pas des mauvaises choses, ce sont des choses. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir la faiblesse, comme je partageais ce matin, ce qu'on voit comme un échec, comme des mauvaises choses, ce sont juste des choses. C'est la vie, c'est des choses qui font partie de nous. Et je pense que si Dieu a mis ce verset dans la Bible, c'est dans ta faiblesse que je suis fort. Il ne l'aurait pas mis si la faiblesse était quelque chose de mauvais. Là où je suis faible, il est fort. Là où je ne peux pas, où je ne peux plus tenir, lui, il tient. Et encore une fois, c'est toujours trouver l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la faiblesse et il faut se complaire dans notre faiblesse. On cherche toujours à être dans l'excellence, on cherche toujours à servir Dieu avec toutes nos capacités, tout ce qu'on est. Mais ça veut aussi dire que, oui, on a une faiblesse, on a des faiblesses, et qu'on a besoin de Dieu, il ne faut pas l'oublier non plus. Et du coup, qu'il faut faire avec les deux. Et je pense que c'est vraiment important, je pense que de ne pas oublier. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était un peu plus dans son témoignage, finalement, qu'il a partagé ça, mais ça m'a vraiment marqué parce que on a tout de suite envie d'effacer nos faiblesses. On a tout de suite envie de faire le maximum pour que ça soit bon. C'est plus une faiblesse dans ma vie. Hop, je vais conquérir le prochain truc. Mais plutôt, Dieu nous appelle à nous concentrer sur ce qu'il veut qu'on fasse. Et lui va se charger de là où on ne peut pas tenir, comme c'était dit, il va tenir pour nous. Et il va peut-être fortifier des choses pendant qu'on fait autre chose. Alors que si nous, on cherche à faire de notre côté notre petite réparation, c'est plus risqué. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui m'a parlé et que je voulais vous partager ce matin. On est encore un peu dans la période de rentrée. Donc voilà, mettre en pratique la parole de Dieu et accepter nos faiblesses, accepter la fragilité. Je veux dire, parfois, il y a aussi les maladies. Certes, on prie pour la guérison, mais ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, que vous avez péché ou que vous êtes moins important que les autres parce que du coup vous êtes plus faible. Jésus est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Jésus, il est venu pour ceux qui savent qu'ils ont besoin de lui. Et voilà, parce que si on pense qu'on est suffisamment fort, qu'on est suffisamment bien, au final on n'aura plus besoin de Christ et puis on ne va plus le mettre au centre. Et puis c'est là aussi qu'on commence à dévier. Donc je vous le partage vraiment parce que je pense qu'on a aussi cette tendance en tant qu'être humain, peut-être parfois plus en tant que Français aussi, parce qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs. Non, pardon. C'est ça, en fait. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose. Je vous invite aussi à réfléchir dans vos vies, de dire effectivement, il y a des choses dans lesquelles je suis faible, mais Seigneur, je veux compter sur toi. Seigneur, je veux compter sur toi pour l'accepter. Et je ne vais pas me flageller en disant « je suis nulle, je suis faible là-dedans, j'arrive pas, je suis... » Mais voilà, en disant « Seigneur, j'ai simplement besoin de toi. » Et du coup, après, il a aussi développé autre chose beaucoup plus longuement, et je ne pourrais pas lui faire justice parce qu'il a beaucoup plus travaillé avec moi déjà, et puis il a pris beaucoup plus de temps pour le faire, mais il a développé la parabole du serviteur inutile. Et j'avoue que je ne l'avais jamais vraiment... approfondi et ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, donc je voulais vous le partager. Ça parle de ce que c'est que le service aussi. Je ne sers pas pour recevoir, c'est parce que j'ai reçu que je sers. Je le refais. Je ne sers pas pour recevoir quelque chose, une récompense, de l'amour, le salut. Mais c'est parce que j'ai reçu que je sers. C'est une réponse, le service. C'est pas moi qui initie le service, et puis hop, il va me passer quelque chose. C'est j'ai reçu, j'ai tout reçu, donc je sers. C'est une réponse d'amour. Ça parle d'amour, de reconnaissance, de joie, de gratitude. C'est ces sentiments, enfin ces sentiments, ces réalités-là qui nous poussent à servir. J'ai reçu l'amour, j'ai reçu la joie. J'ai reçu le pardon. Et c'est une réponse. Parce que c'est vrai, au final, le serviteur inutile, il nous a fait réfléchir à ça. Est-ce que Dieu a besoin de nous ? Il n'a pas besoin de nous pour gérer le monde. Il n'a pas besoin de nous pour que le monde tourne, etc. Est-ce qu'il ne peut pas le faire lui-même, le créateur de l'univers ? Par contre, il a choisi de nous faire participer. Dans ce sens-là, il a besoin de nous, dans le sens où il veut qu'on soit actif, qu'on fasse partie de son plan. Il nous a appelés amis pour qu'on fasse partie de ce qu'il fait. Mais En vrai, il n'a pas besoin de nous. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. C'est dommage. Mais voilà, donc bon, encore une fois, je vous dis, je ne rends pas justice à toute sa présentation parce que c'était beaucoup plus approfondi, mais ça m'a fait réfléchir aussi. Servir, c'est un résultat de ce que Dieu a fait pour nous, c'est pas un objectif en soi, c'est un message de grâce. La grâce de Dieu pour nous. Et si on fait pas attention, si on se rappelle pas de pourquoi on sert dans l'église, pourquoi on sert dans la société, pourquoi on sert dans notre famille, pourquoi... Voilà. Le service, hein, vraiment, sens général du terme. On peut aussi tomber dans une déviance si on oublie pourquoi on fait, pourquoi on sert. Parce que du coup, on peut penser que ce que je fais me qualifie dans ma relation avec Dieu. Si je fais plus et mieux, je vais mériter mieux. Si je respecte bien tous ses commandements, je vais avoir une meilleure place, je vais avoir plus de bénédictions, je vais avoir plus d'amour. Donc ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va mettre des conditions. On va aimer avec condition. Donc, ok, je vais aimer mon frère, mais du coup, faut qu'en échange, lui aussi, même. Je vais servir telle personne, mais en échange, j'attends que eux aussi viennent me servir quand j'en aurai besoin. Donc, on met des conditions. Or, c'est pas du tout ce à quoi Dieu nous appelle. Il faut. Donc, je redis cette phrase. Hein, c'est... Bon, il faut... Pardon. Il faut faire vraiment attention à comment on pense, sinon, on va faire que. On va tomber dans la déviance que je fais quelque de ce que je fais, pardon, je brouille dans mes mots. Ce que je fais va qualifier ma relation avec Dieu. Or, c'est pas là-dedans qu'on, c'est pas dans ce qu'on fait. Jésus a dit tout est accompli. On peut rien faire de plus pour que ce soit accompli. On est bien d'accord. Tout est accompli. Donc vraiment, même si je me répète, c'est pour que. Que vous puissiez, que ça puisse venir vraiment dans vos cœurs, parce que moi, il l'a répété plusieurs fois, ça m'a vraiment parlé, hein, que voilà, notre service est une réponse à son amour, une réponse à ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous aide à revoir les choses. Ça nous aide à repenser, parfois, on a pu tomber facilement, je veux dire, surtout, voilà, si on, même qu'on soit jeune chrétien zélé ou chrétien plus ancien, toujours zélé, mais on peut tomber dans d'autres, d'autres façons de penser, et vraiment de revenir pourquoi je sers. C'est pas ça qui va faire que je mérite mieux que les autres. On est tous égaux, et je reviens aussi à l'image que j'ai donnée tout à l'heure, hein, christocentré, du coup, christocentre. On est tous au même état, on est tous égaux par rapport à ça. Et c'est notre réponse qui va faire la différence, mais pas une différence du fait que je vais être plus aimé, qui fait une différence dans ma vie. C'est un peu moi aussi, je me souviens, cette parabole, elle m'a toujours semblé un peu injuste. La parabole, quand il explique les ouvriers, t'as ceux qui sont arrivés à 6h du mat, là, qui ont bossé toute la journée, ils ont une pièce. Ceux qui arrivent 30 minutes avant la fermeture, ils viennent bosser 30 minutes, ils ont la même récompense, quoi. Là, dans mon esprit humain, j'ai toujours trouvé ça un peu... c'est quand même abusé, quoi. Mais non. Le salut, il est pour tous, et... Nous, c'est plutôt, voilà, voir les choses différemment. On a eu la joie de travailler depuis le début. On a eu la joie d'être aimé, la joie d'être accepté, la joie d'être pardonné, la joie de vivre avec la paix, le fait d'être libéré des choses qui nous pèsent. On a eu tout ça. Et ceux qui arrivent au dernier moment, ils ont pu en profiter qu'un petit peu. Alors qu'ils ont tout, ils ont pu vivre une vie qui a été peut-être très difficile dans les ténèbres, avec des souffrances, etc. Donc oui, en fait, c'est juste que la récompense soit la même. Parce qu'en fait, c'est pas notre service qui va qualifier, c'est le fait qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et du coup, effectivement, là, on comprend mieux que, bah oui, forcément, la récompense est la même. Parce que c'est pas mon service qui va qualifier ma relation avec Dieu, c'est pas mon service qui va faire que je vais avoir une meilleure place au paradis. Donc voilà, juste, c'est un rappel. Bien sûr, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais... Ouais, j'avais à cœur de partager ça pour cette. Donc voilà, le service, c'est une réponse à son amour, à sa grâce, à son don de vie. Et en fait, encore une fois, c'est que j'ai tant reçu que je ne peux que servir avec excellence. Au final, c'est pas je vais faire le minimum vital pour dire ouais, j'ai servi. C'est au final, c'est tellement énorme ce que j'ai reçu que bah, ma réponse, c'est si je veux faire de mon mieux, Seigneur, et je veux te servir, parce que tu m'as déjà tout donné, quoi. Tout est accompli. Et donc pour vivre cela, pour pouvoir être en mesure de le faire, où je répète, il faut toujours aller à la source, à Christ. Parce que on est ses serviteurs, mais on est aussi ses amis. Il veut qu'on soit proche de lui, proche de son cœur. Il veut nous dire les plans. Donc, comme je disais, oui, il n'a pas foncièrement besoin de nous pour que le monde tourne, mais il veut qu'on fasse partie de son plan. Du coup, il faut qu'on aille voir ce qu'il veut, sa volonté. Et c'est pareil, il y a servir avec excellence, mais servir avec sagesse aussi. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans tous les sens, faire plein de trucs. Seigneur, je suis plein de reconnaissance, donc je vais tout faire et je vais consacrer ma vie à faire tout et dans tous les sens, mais c'est pas ça non plus. C'est aussi chercher Dieu pour dire, voilà, tu veux que j'aille où, tu veux que je fasse quoi? Parce que sinon, là, vous allez vraiment, pour le coup, inutile dans le sens où vous allez vous épuiser, parce que si vous faites pas ce que Dieu vous a montré de faire, là où il vous a montré de faire, vous allez vous épuiser. Alors que quand on fait ce que Dieu nous montre, eh ben, c'est beaucoup plus facile, d'une certaine manière, parce que vous êtes au bon endroit et Dieu vous accompagne et Dieu va vous équiper de ce que vous avez besoin à ce moment-là, ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment important de revenir. Alors, certes, il y a ce côté « je sers » parce que c'est une réponse à tout ce que Dieu m'a donné, mais c'est aussi « je vais voir quels sont les ordres de mon maître ». Parce qu'aujourd'hui, il t'a peut-être pas demandé d'aller dans le champ de maïs, il t'a demandé d'aller dans le champ de blé. C'est à l'opposé, c'est pas tout à fait le même travail. Et du coup, après, tu vas être déçu, tu vas dire « mais attends, mais c'est pas possible, ça donne rien ». Enfin bon, je donne des images, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est important, vraiment, de pas juste aller dans tous les sens, mais chercher, ouais, pas dans l'activiste, exactement. Parce que sinon, on retombe dans une autre déviance. Mais vraiment, encore une fois, hein, toujours Christ au centre. Tout naît de ma relation avec lui, de ce que je vis avec lui, à être à son écoute. Et aller là où il veut que j'aille, faire ce qu'il veut que je fasse. Et du coup, ça demande cette écoute, et ça demande cette proximité. On dit toujours hein, que voilà, parfois on aimerait bien avoir la carte avec bon, je fais ça. Mais Dieu, comme il veut cette relation, bah, c'est cet autre travail qu'il veut qu'on fasse, qu'on aille à ses pieds, qu'on passe du temps avec lui et qu'on sache ce qu'il a pour nous. Donc voilà, du coup, si je synthétise un peu ça, aller à Christ, chercher sa volonté. Sa volonté, il y a une partie, une bonne partie qui est dans sa parole. Et du coup, mettre en pratique afin que notre maison soit solide, notre maison, notre vie, tout ce qu'on construit, et que ce soit des choses qui puissent durer dans l'éternité. Et je voudrais finir avec Romains 11. Romains 11, verset 36, qui va résumer. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Je redis. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Quand on sait du coup, voilà, où est notre place, et ce qu'on doit faire, qu'on met Christ sur son trône dans notre vie, qu'on le met bien au centre, les choses seront mieux. Je ne dis pas effectivement, la vie n'est pas forcément facile, même si on a Christ avec nous, il y a les difficultés de la vie, hein, je l'ai dit au début, hein, il y aura toujours le vent, il y aura toujours la pluie, il y aura toujours les tempêtes, mais on va les vivre différemment. Donc je vous invite vraiment à revenir à Christ, à revenir à toujours le mettre au centre. Et ça, je pense que enfin, c'est un travail de tous les jours, parce qu'on a vite tendance à reprendre les rênes. Moi, je vais prier pour clôturer ça, avant de laisser la suite. Jésus, merci pour ton sacrifice. Parce que par ton sacrifice, tu as tout accompli, Seigneur. Et Vraiment, je te remercie parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as aussi donné l'accès au Père. Tu nous donnes le pardon. Seigneur, nous voulons vivre ces choses, nous voulons les mettre en pratique. Nous voulons que ta parole soit proche de notre cœur, afin que nous sachions aussi ce que tu veux. Que nous puissions être attirés par toi toujours plus, que nous puissions être reconnaissants, Seigneur. Que nous puissions vraiment voir à quel point ton œuvre est parfaite, à quel point ton œuvre est grande. Seigneur, tu es l'ami des pécheurs, mais tu es le péché. Et sinon, nous voulons être de même. Que dans nos vies, nous puissions mettre nos péchés devant toi, que nous puissions chercher ton pardon, Seigneur, que nous puissions aussi apprendre à nous pardonner nous-mêmes, nos erreurs, Seigneur, et que nous acceptions nos faiblesses, et que nous sachions, Seigneur, que là où nous sommes faibles, tu es fort, que toutes les choses que nous n'arrivons pas à faire, toi, tu peux les faire, que tu as aussi mis des gens autour de nous, qui sont nos frères, nos sœurs, et qui sont là pour nous aider. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je pense aussi d'un terme général. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans notre coin. Et Seigneur, merci pour les autres. Merci pour ceux qui sont autour de nous. Merci pour ceux qui peuvent parler dans notre vie. Seigneur, vraiment, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous à toujours nous remettre en question devant toi, Seigneur. Sonde-nous mon cœur, ô Dieu. C'est ce que dit David, Seigneur, dans sa prière. Et vraiment, viens, chaque jour sonder nos cœurs, que nous puissions faire cette démarche. Vraiment pour ceux qui sont, voilà, Seigneur, ce matin, ceux qui sont découragés, que ceux qui sont fatigués, qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent ressentir ça, Seigneur, et que tu vas venir les aider, Seigneur. Ils ont juste à demander ton aide. Et que ceux qui sont... qui ont le feu ce matin, qui ont la forme et qui puissent se réjouir et vraiment se remettre en toi. Vraiment, aide-nous, Seigneur, à chaque instant, se tourner vers toi. Seigneur, quand on a un problème, au lieu d'essayer de le régler nous-mêmes, que nous puissions nous tourner vers toi. Même si une solution évidente nous paraît la bonne, que nous puissions tout de même chercher d'abord à toi, parce que c'est peut-être pas la solution que tu avais prévue. Alors Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions vivre cette journée, cette semaine et tous les jours qui suivent, que nous puissions vivre avec toi au centre. Merci Seigneur. Amen.